gouvernement congolais a conclu cet accord avec le gouvernement turc hier dimanche 20 février à Kinshasa. Ces accords portent notamment sur la sécurité, les infrastructures, la santé et le transport, a indiqué le chef de l'État congolais, saluant une coopération gagnant-gagnant. La signature de ces accords a eu lieu au Palais de la Nation lors du tête-à-tête entre le président Félix Tshisekedi de la RDC et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier a souligné par ailleurs le renforcement des relations économiques et commerciales entre son pays et la RDC. Le président de la République turque, qui est arrivé dimanche 20 février à Kinshasa, a quitté la RDC ce lundi. Quelle lecture faire des accords signés entre la RDC et la Turquie? Nous en parlons ce soir avec Chérubin Okende, ministre de Transport, Voie des Communications et de l'Encavement. Chérubin Okende, bonsoir. Apparemment, le ministre n'est pas encore en ligne. Professeur Albert Maloukissa, professeur d'économie et développement à l'Université catholique du Congo et chercheur au groupe d'études sur le Congo, Jacques en sigle. Professeur Albert Maloukissa, bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste.
Et le professeur Emmanuel Mukundi, député national élu des News dans la province du Tanganyika. Vous êtes professeur à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Bonsoir, professeur Emmanuel Mukundi.
Bonsoir, madame. Bonsoir, merci.
Vous êtes très nombreux, auditeurs de Radio Okapi, à réagir au terme de ce soir. C'est le cas de Cléophas Bolakofo depuis Kinshasa. Ces accords sont, à mon avis, salutaires. Le gouvernement congolais doit surtout capitaliser le domaine de la coopération militaire avec la Turquie pour mettre fin à la guerre dans la partie est du pays. La Turquie étant l'un des pays puissants militairement aujourd'hui. Christian Kiaviro, je ne sais pas si nous allons, nos populations, réellement bénéficier de ces accords dits bilatéraux, car les institutions agissent pour leur compte au nom de la population, comme bouc émissaire à Lubumbashi dans la province du Katanga. Vous nous suivez sur la 95.8 et pour vous qui êtes à l'étranger, vous avez la possibilité de nous suivre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal Plus, channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Je l'ai dit, le président turc Recep Tayyip Erdogan a foulé le sol de Kinshasa hier dimanche pour une visite de 24 heures en RDC. Au Palais de la Nation, il a été accueilli par son homologue congolais. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête bien avant la signature des nouveaux accords, en plus de ceux signés en septembre 2021 à Ankara. C'était lors de la visite de Félix Tshisekedi en Turquie. Plus de détails avec vous, Patricia Bajoko-Saidi.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a quitté la RDC ce lundi après un séjour de moins de 24 heures à Kinshasa. À son arrivée hier dimanche, il a eu un tête-à-tête avec son homologue congolais avant la signature de nouveaux accords, de plus de ceux signés en septembre 2021 à Ankara lors de la visite de Félix Tshisekedi en Turquie. Ce jour est un jour historique dans les relations entre la Turquie et la RDC en raison des accords signés entre nos deux pays et qui symbolisent la volonté de raffermir nos relations, a déclaré devant la presse le président Tshisekedi à l'issue de leur tête-à-tête. Ces accords portent notamment sur la sécurité, les infrastructures, la santé, le transport, a-t-il indiqué, saluant une coopération gagnant-gagnant. Attirant l'attention sur le renforcement de relations économiques et commerciales entre la Turquie et la RDC, conformément à l'élan atteint dans les relations politiques, le président Erdogan a déclaré « Nous avons presque doublé notre volume de changes bilatéraux, qui était de 36,5 millions de dollars en 2018 avant la pandémie. Nous avançons décidément vers notre objectif commercial de 250 millions de dollars. » Les présidents turcs annoncent que l'Agence turque de coopération et de coordination poursuit son soutien aux efforts de développement de la RDC. Elle mène divers projets, de la formation professionnelle à la santé, du soutien aux infrastructures administratives et sociales à la rénovation des écoles. Nous continuerons d'être aux côtés de la République démocratique du Congo dans ses efforts de développement, a-t-il conclu.
Chérubin Okende, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes ministre de Transport, Voies de Communication et des Enclavements. Monsieur le ministre, le président turc a séjourné en RDC pendant moins de 24 heures. Plusieurs accords avec le gouvernement turc ont été conclus, notamment dans le domaine de la sécurité, infrastructure, transport et santé. Qu'est-ce qui sera fait concrètement, monsieur le ministre, vous qui avez assisté à la signature de tous ces accords, dans le domaine de sécurité, par exemple, qu'est-ce qui sera fait concrètement?
Vous savez que la République démocratique du Congo connaît de sérieux problèmes, de sérieuses difficultés en matière de sécurité. Cette coopération envisage le renforcement de capacités de nos troupes pour assurer la sécurité de ce pays sous-continent avec plus de 2 345 000 km². Il faudrait envisager le développement de l'industrie de la défense et je pense que ce sont des bonnes perspectives. Je ne saurais pas malheureusement vous en dire plus à ce stade.
Pourquoi, monsieur le ministre?
Ça relève de la sécurité. Je vous dis qu'il y a cet accord, il y a des perspectives pour renforcer les capacités de la République démocratique du Congo en matière sécuritaire.
Parlons de votre secteur, le transport. Dans ce secteur, qu'est-ce qui sera fait concrètement? Qu'est-ce que la Turquie va offrir à la RDC?
Ce n'est pas question d'offrir, mais c'est une coopération, c'est un partenariat. Nous entendons développer des infrastructures portuaires. Si vous voyez notre fleuve, c'est comme un boulevard, mais c'est un boulevard que nous ne savons pas utiliser à bon escient parce que il faut moderniser les ports, il faut baliser le fleuve, il faut aussi draguer ce fleuve-là et ses affluents, je veux souligner. C'est un potentiel énorme pour booster l'économie de notre pays. Nous voyons également les chemins de faire, quelques tronçons qui pourront être mis à profit dans le cadre de ce partenariat. Et du côté de transport, donc, nous avons signé ce mémorandum d'entente. Nous sommes en train de nous évertuer pour sa mise en œuvre effective.
Sa mise en œuvre effective, c'est la question que tous les Congolais se posent aujourd'hui. Il y a eu plusieurs accords signés entre la RDC et d'autres pays ou d'autres partenaires qui, jusqu'à ce jour, ne sont pas encore mis en œuvre. Qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci, avec la Turquie, les choses vont aller dans le bon sens et ça sera du concret?
Eh ben, j'espère bien. Ils ont raison parce que même nous n'avons plus cet entichement à des signatures qui ne donnent pas de résultats. Mais est-il qu'il faut y croire? Si vous ne s'aimez pas aujourd'hui, il ne faudra pas que vous vous entendiez à récolter demain. Donc nous allons poursuivre, mais de manière à nous mettre également au diapason de ces défis qui sont les nôtres et y mettre aussi du sérieux, assurer le suivi qui s'impose. Vous comprendrez que nos partenaires stratégiques aujourd'hui, ils ne viennent pas pour, disons, de la villégiature. Hein, ils viennent aussi pour essayer, investir et rentrer dans leurs investissements. Et c'est ce qui pourra garantir le fait, l'engagement mutuel, l'engagement réciproque et de nous-mêmes et de nos partenaires. Donc, je comprends tout à fait les compatriotes qui émettent de réserves parce qu'en fait, on a signé, il faudra arriver à la matérialisation de tout cela. Nous en sommes très conscients et cela, le chef de l'État ne cesse de nous le répéter chaque fois, que nous devons mettre de notre côté tout le sérieux possible pour aboutir à des accords qui soient bénéfiques pour le peuple congolais.
Alors, si matérialisation il y a, dans le domaine du transport, par exemple, monsieur le ministre, par où les travaux vont-ils commencer? Vous avez parlé des infrastructures portuaires, des quelques tronçons, de chemins de fer.
Oui, je prends d'abord le port. Voyez le bief inférieur et moyen, même supérieur de notre fleuve. Et quand je parle de bief, je vois le tronçon Banana Matadi. Il faudra imaginer également le chemin de fer Banana Matadi. Il faut également voir la route qui devra aussi être aménagée, modernisée. Et surtout que nous avons des perspectives de la construction du port en eau profonde de Banana, qui sera aussi un gros ouvrage qui va certainement booster l'économie de notre pays. Nous avons tout intérêt de pouvoir souhaiter que cela se matérialise. Il y a aussi le chemin de fer Kinshasa-Matadi. Il est dans un état de délabrement, de vétusté très avancée. Donc, le souhait est que nous parvenions vraiment à moderniser les infrastructures de transport, parce que je continue de plaider sur le fait que les infrastructures de transport constituent, disons, l'épine dorsale de la relance ou du développement économique de notre pays. C'est comme le sang qui doit circuler dans le corps humain pour y donner de la vitalité.
Les moyens viendront d'où, monsieur le ministre, pour matérialiser tous ces projets?
Eh bien, madame, c'est un partenariat, c'est-à-dire que nous ne cherchons pas partenaire qui n'est pas capable de mobiliser le financement pour venir investir. Donc c'est cela, donc c'est trivial que le partenariat stratégique que nous voulons éprouver tient et de moyens techniques et de moyens financiers.
La RDC donne quoi en contrepartie?
Eh bien, ne jouons pas plus vite que la musique. Donc, essayons de suivre le rythme de la musique. Déjà, le potentiel de notre pays, parce que je vous l'ai décrit, avec une étendue de 2 345 000 km, est nanti de environ 100 millions d'habitants aujourd'hui. C'est un potentiel économique énorme. Assurer la mobilité de personnes sur cette étendue énorme, ça va créer la richesse, ça va créer des emplois. Ça va... Donc, au fait, l'apport en potentiel de la République démocratique du Congo ne laisse pas de doute que nous engageons avec des partenaires sérieux, ils pourront aussi rentrer dans leurs investissements.
Professeur Emmanuel Mukundi, député national élu des Nyunzu dans la province du Tanganyika, vous êtes professeur à la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Quelle analyse vous faites des accords signés entre la RDC et la Turquie?
Merci beaucoup madame, merci pour m'avoir donné cette occasion d'échanger avec le ministre Chérubin, que je salue, qui est mon frère dans le groupe des députés de Mama Maria. Je salue aussi les collègues, le professeur Albert. Alors, moi, j'ai retenu deux choses, des questions principales. La première, ce sont des questions sécuritaires. La deuxième, ce sont des questions économiques. Oui, d'emblée, comme Congolais, je peux dire que c'est une très bonne chose, surtout qu'il s'agit d'une coopération win-win. Aussi, il s'agit de la coopération avec la Turquie. On se souviendra que la Turquie, c'est un pays avec qui, au sorti des bandons, nous avons été tous déclarés dans le carcan des pays du tiers-monde. Aujourd'hui, la Turquie, c'est un pays en émergence. Donc, c'est une très bonne expérience que nous allons faire avec la Turquie. Moi, je crois que les jeux de cache-cache qui nous sont habitués avec les autres partenaires occidentaux vont être minimisés. Mais vous comprendrez que, madame, moi, je suis député national. Je viens exactement de Nyunzu, la partie est de notre territoire, là où il y a les terroristes et là où il y a les milices. Donc, je veux répondre moins comme un professeur, mais plus comme un député qui parle de ce qu'il a récolté dans la population, surtout que je suis en face du ministre Chérubin. Donc, la population a retenu que le chef de l'État sollicite le soutien de la Turquie pour lutter contre le milice et le terroriste dans l'est de notre pays. Mais beaucoup se posent la question, d'ailleurs il y a un auditeur qui a posé cette question, jusqu'à quand? Parce que nous avons combien de pays déjà? Où on en aura combien pour lutter contre ces mêmes milices? Tout le monde se souvient qu'il y a à peine qu'on a signé les accords avec le Rwanda, nous sommes avec les Ougandais qui sont en train de vrai sur le sol congolais, il y a encore beaucoup d'autres pays africains avec qui on a signé, pour le même Est, on se souviendra encore du passage des Américains. Je ne sais pas s'ils sont déjà partis ou s'ils sont encore là ou s'ils reviendront. Donc alors, beaucoup se posent la question, combien viendront encore dans notre pays? Alors là, il y a un problème. Je crois qu'il fallait commencer d'abord par évaluer l'apport des autres pays. Cela nous permettrait de voir à quel niveau nous sommes et quelle est la dimension que les autres, les Turcs particulièrement, viendront, n'est-ce pas, apporter dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'il y a cette crainte, il y a cette phobie de voir la RDC qui présente toute sa nudité, excusez-moi l'expression, toute sa nudité sécuritaire, au point où tout le monde connaîtra ce que nous sommes. Et surtout que lorsqu'ils découvrent la profondeur de notre sous-sol, en ce moment-là, les pays qui entrent, on le voit, ils entrent en pompe, ils entrent avec les accords, ils entrent en criant, en chantant, mais lorsqu'ils sont dedans, c'est le silence des morts. Et l'insécurité continue toujours.
Professeur, aujourd'hui, la Turquie est une puissance mondiale sur le plan militaire. Est-ce que ce n'est pas avantageux pour la RDC de coopérer avec ce pays, comme l'a dit le ministre, afin de renforcer nos troupes dans la partie orientale du pays qui se battent nuit et jour pour neutraliser tous les groupes armés qui sèment l'insécurité dans cette partie du pays?
Madame, la Turquie n'est pas plus forte que les États-Unis qu'on a vu hier. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la crainte ou la phobie que nous avons, c'est celle de voir la Turquie venir s'ajouter au nombre de pays qui sont à l'est. L'espace est, enfin, va être occupé totalement par les armées étrangères et que, bon, ces armées restent dans le silence en train d'exploiter. C'est ce que nous craignons. Sinon, la population de Nyunzu, d'où je viens, où règnent encore les terroristes des Apanapal et des Malaika, nous acceptons cette coopération, mais nous attendons quelque chose pourvu que cette coopération soit prometteuse. Et qu'est-ce que nous attendons de notre gouvernement? Effectivement, si les Turcs viendront, parce que j'ai entendu le ministre dire qu'il y a un problème de développement des infrastructures, de l'industrie, de la défense, il y a un problème de renforcement des capacités. Oui, si ce renforcement des capacités est que le Turc se retrouve là où, au front, là où il y a le rebelle Apanapal, avec les armes turques, là, nous pouvons dire, la population peut dire, oui, au moins, nous voyons cette fois-ci un pays ami qui vient pouvoir nous soutenir. Mais cependant, madame, nous savons que dans les relations internationales, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas d'amitié. Chacun cherche ce qu'il cherche. Quand vous posez la question au ministre en lui demandant qu'est-ce que la RDC va donner à la Turquie, vous avez compris très rapidement que le ministre ne savait pas quoi vous dire. Tout simplement parce que dans les relations, là je passe directement dans les relations commerciales. Dans les relations commerciales, je peux vous dire, madame, l'objectif fixé de 250 milliards, c'est très bon, on ne peut pas refuser. Mais d'emblée, je peux dire comme professeur en économie monétaire internationale, que le chiffre tel qu'il est présenté, c'est la somme des exportations et des importations. Alors, si c'est la somme des exportations et des importations, on se pose alors la question, combien la Turquie, dans ces 250, combien la Turquie importe chez nous? C'est ce qui est important. En d'autres termes, combien nous exportons à la Turquie et combien nous importons à la Turquie. On vérifie la balance des paiements de ces deux pays, particulièrement la balance commerciale, pour voir laquelle est positive et laquelle est négative. J'ai vérifié, avant de commencer cette émission, j'ai vérifié notre balance des paiements depuis 2018, nos relations commerciales entre la Turquie et la République démocratique du Congo. J'ai vérifié les données de l'Organisation mondiale du commerce. C'est facilement, j'ai observé que le compte commercial de la RDC est déficitaire. Ça voudrait dire que nous importons plus. Nous donnons un marché à la Turquie. Et alors, si il en est ainsi, et c'est ce qui est d'ailleurs, ce ne sont plus des relations gagnant-gagnant, c'est la Turquie qui gagne, parce qu'à ce moment-là, c'est la Turquie qui exporte beaucoup plus chez nous. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que la main-d'œuvre ou l'emploi en Turquie augmente, l'industrie turque accroît.
Mais en RDC, la main-d'œuvre va aussi augmenter, parce que lorsque les Turcs vont venir pour investir ici, ils vont créer des sociétés, des entreprises, et ils auront besoin de la main-d'œuvre congolaise pour y travailler.
Madame, nous sommes dans la croyance, ici nous ne sommes pas en religion, nous sommes en économie, et en économie il faut se méfier de la croyance, surtout l'économie internationale. Parce que comme je vous ai dit, en économie internationale, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas d'amitié. La Turquie ne vient pas chez vous ici pour investir tout simplement comme ça. Parce que j'ai vu dans les anciens accords, les accords de l'année passée, il y a la protection réciproque des investissements. Jusque-là, la Turquie a déjà apporté combien? Si la Turquie a déjà apporté combien, on se pose la question, dans quel domaine? Et dans quel coin de la République démocratique du Congo? Oui, c'est bien beau, ces entreprises internationales turques vont être installées où? Et là, c'est dans quel domaine? Et si c'est dans les domaines miniers, évidemment, nous faisons le cercle vicieux. C'est ce que les Belges ont fait pendant la moitié d'un siècle, et on a appelé ça la coopération. C'est ce que les Chinois ont fait les 20 dernières années, on a appelé ça la coopération.
Alors vous estimez donc, professeur Mukundi, que ça ne sera pas une coopération gagnant-gagnant, comme l'a dit le chef de l'État, Félix Tshisekedi?
Madame, en économie, c'est la force des négociations. Si réellement on a très bien négocié, on peut espérer quelque chose. Mais si l'on n'a pas bien espéré, ça va pas. Comme ça a été pour les autres cas, ça sera la même chose.
Professeur Albert Maloukissa, professeur d'économie et développement à l'Université catholique du Congo et chercheur au groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Professeur, votre lecture de la visite du président turc en RDC?
Merci Madame Kevin Côté. Je commence par saluer aussi le ministre Chérubin et puis mon estimé collègue Emmanuel. Nous sommes pratiquement dans le même débat qui a été engagé avant pour la coopération gagnant-gagnant qu'on avait annoncée entre la RDC et la Chine. Au fait, c'est difficile d'être très optimiste de mon point de vue dans le contexte institutionnel actuel de la République démocratique du Congo, où la mauvaise gouvernance n'a pas encore trouvé des solutions durables. Aujourd'hui, on négocie avec la Turquie, hier c'était avec la Chine. On a pendant longtemps condamné les Occidentaux qui exploitaient les Congolais, qui exploitaient l'Afrique. Mais quand on examine toutes ces coopérations-là entre les pays africains et les Occidentaux, les Congos, la Belgique, les États-Unis, la France et tant d'autres pays, il y a un dénominateur commun. Les pays bien gouvernés ou relativement bien gouvernés arrivent à mieux tirer profit de la coopération, ce qui n'est pas le cas des pays mal gouvernés comme le Congo, qui a perdu d'abord avec les contrats chinois. On disait aussi que c'était des contrats gagnant-gagnant, un partenariat gagnant-gagnant, mais ça profitait moins au Congo et davantage aux Chinois. Les Chinois qui sont arrivés ici pour s'insérer même dans les petits commerces en dérangeant parfois nos pauvres petits entrepreneurs. Voilà. Donc, on peut dire que pour cette nouvelle perspective avec la Turquie, ce n'est pas une mauvaise chose en théorie. Hein. A priori, ce n'est pas une mauvaise chose parce que nous avons intérêt à diversifier nos partenaires, mais les pays profitent davantage de la coopération quand ils arrivent à mettre sérieusement en compétition les partenaires économiques. Des arrangements de gré à gré par des ententes directes, très souvent, ça fait en sorte que nous perdons beaucoup. La Turquie est un pays émergent économiquement. La Turquie a été la 19e puissance économique mondiale en 2020 avec un PIB de 717 milliards de dollars américains. Donc, c'est un pays qui peut nous aider, tout comme on peut perdre avec la Turquie, comme cela a été le cas avant. Il faut fondamentalement qu'on puisse soigner le fonctionnement de nos institutions. La qualité de la gouvernance de nos institutions va jouer beaucoup si l'on voudrait bien gagner avec la Turquie. Regardez aujourd'hui, il n'y a plus d'accord FCC-CACH. Mais même au sein de la prétendue Union sacrée, mais c'est les mêmes pratiques qu'on continue à déplorer. Nos entreprises sont toujours considérées comme des vaches à lait de la classe dirigeante. Le ministre et l'autorité de tutelle technique de la SCTP, il n'y a pas longtemps, on a appris que les mandataires, deux mandataires importants, les PCA et la DG de la SCTP, se sont retrouvés à prison à cause des détournements, des tentatives de détournement. Ça, ils sont présumés. Mais innocent. Mais vous voyez, ça c'est un phénomène de masse. Hein. Ça, c'est à la FCB, mais il y a d'autres entreprises qui veulent encore, et c'est dans de nombreuses institutions congolaises que l'intérêt supérieur des citoyens n'est pas mis à l'avant-plan. Donc, de mon point de vue, je ne suis pas si optimiste que le président de la République. C'est normal qu'il puisse essayer de rassurer la population. Mais je crois que le chef de l'État a intérêt à pousser plus loin la lutte contre la corruption, à pousser plus loin des réformes institutionnelles devant permettre au Congo d'améliorer sa gouvernance, et c'est dans ces conditions qu'on peut vraiment tirer profit de n'importe quelle coopération avec un pays étranger.
Professeur Maluki Saab, parmi les sept accords signés entre la Turquie et la RDC, il y a par exemple le protocole d'accord concernant l'infrastructure et le transport fluvial sous le fleuve Congo et ses affluents, le protocole d'accord pour la construction de 1083 km d'autoroute, le protocole d'accord pour la construction de la ligne de chemin de fer. Est-ce que c'est pas bénéfique pour la RDC?
Oui, mais madame, le protocole en question, c'est entouré de quelles modalités, c'est sous quelles conditions? Parce que jusqu'à présent, c'est un protocole, donc les détails ne sont pas encore connus. Mais on a besoin des infrastructures, les infrastructures de base au Congo, des transports et dans tous les autres secteurs, c'est dans un état lamentable. Mais est-ce que cette coopération peut nous permettre d'aller plus loin? Je dis oui et non. On a besoin qu'on nous apporte de l'aide, mais on ne peut pas bénéficier de l'aide, on ne peut pas bénéficier de la coopération si nous-mêmes nous ne mettons pas des sérieux dans le fonctionnement de nos institutions. Je vous rappelle le cas récent de la Chine. On a présenté la Chine comme si c'était la solution pour la RDC. Révolution de la modernité, c'est un chantier de la République, mais nous continuons avec presque... les mêmes faiblesses, quoi, voulais-je dire. Regardez, nous avions eu un projet important hein, avec le président de la République, Félix Tshisekedi. On espérait beaucoup avec ces projets, les programmes des 100 jours. Mais on est arrivé où avec ces programmes? Aujourd'hui, on a annoncé un autre programme pour le développement des 150 territoires. Mais est-ce qu'on peut s'assurer de pouvoir récolter, de pouvoir obtenir les résultats escomptés? Ce n'est pas évident, madame. Il faudra un leadership responsable. Il faudra avoir des dirigeants sérieux, compétents, disciplinés à la tête de nos différentes institutions pour que les choses marchent. Regardez les travaux à Badigeff jusqu'à présent. Ça continue à nous révéler beaucoup de cas de détournement. Dernièrement, il y a eu encore des révélations dans le secteur de la santé et un secteur appuyé aussi par des partenaires techniques et financiers. Mais écoutez, madame, il faut mettre du sérieux dans le fonctionnement des institutions. Tous les pays ont évolué, même la Turquie elle-même, elle a pu évoluer parce qu'il y a une classe dirigeante qui essaie de mettre à l'avant-plan les intérêts supérieurs de la nation.
Monsieur le ministre, cher Hubert Okende, les auditeurs sont nombreux à appeler sur notre standard. Ils veulent aussi intervenir, donner leur point de vue. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga.
C'est Patient Kenga, je vous appelle depuis la province du Haut-Katanga à Lubumbashi. Ces accords ne sont pas les premiers. Certains sont là et d'autres continueront à venir. Mais la matérialisation reste un autre problème. Nous ne pouvons pas continuer à se féliciter de signer les accords qui ne profitent pas au petit peuple. Je suggère au gouvernement de faire en amont une évaluation des précédents accords pour connaître les tenants et les aboutissants et en aval, corriger les erreurs sur le Yanaï afin que les nouveaux accords portent des fruits.
Monsieur le ministre, comment vous répondez à Patient Kenga?
Je donne totalement raison à Patient. Ce pessimisme est aujourd'hui autorisé. D'ailleurs, vous me permettrez de saluer les deux professeurs. J'ai cité ici le professeur Emmanuel Mukundi et le professeur Albert Maloukissa. Au fait, à les suivre dans la pertinence de leur développement, de leur réflexion, nous sommes tous d'accord du procès de 60 ans de notre gouvernance. Il faudra que nous qui sommes aujourd'hui aux affaires de l'État, que cela constitue non une raison de frustration, mais un élément d'interpellation. Est-ce que nous sommes autorisés aujourd'hui de nous comporter de la même manière, de montrer encore ces carences de leadership visionnaire et exemplaire qui peuvent faire sortir notre pays de sa situation calamiteuse, honteuse actuelle. Donc moi, je salue les analyses pertinentes de tous ces compatriotes en nous disant que, surtout pour nous, nous devons nous autoflageller pour dire non à la mauvaise gouvernance. Il y a la diversification des partenaires qui est une très bonne chose, mais nous ne pourrons jamais tirer profit de la coopération si chez nous-mêmes il n'y a pas de bonne gouvernance. C'est ça la grande leçon d'interpellation personnelle que je tire de toutes ces analyses pertinentes. Donc, les accords ne sont pas mauvais. Les mémorandums d'entente c'est pas une mauvaise initiative. Encore devrons-nous nous interpeller nous-mêmes pour savoir ce que nous devons en faire pour arriver à la matérialisation concrète que nous espérons pourra amener des solutions aux problèmes qui assaillent nos populations. Donc, moi, je crois que les compatriotes n'ont pas refuser qu'on puisse prendre des initiatives de coopération, mais il nous appelle déjà à la conséquence. Conséquence, c'est-à-dire nous devons savoir comment évaluer le passé et pour savoir aussi comment éviter certaines pesanteurs ou certaines erreurs de ce passé-là afin que nous puissions aborder le présent avec beaucoup plus de perspicacité, d'opiniâtreté, de pugnacité, je voulais dire. Donc moi, je crois pour nous, ou pour moi personnellement, c'est une interpellation qu'il faut vraiment intérioriser pour dire, voilà, aujourd'hui nous avons des responsabilités, essayons de nous évertuer à faire autrement les choses, sinon les groupes armés resteront toujours dans notre territoire pour pilluler et mettre ils iront toujours dans notre territoire et mettre en mal la quiétude de nos populations. Sinon, nous continuerons toujours à croupir dans une misère obscure de notre peuple pendant que nous avons un pays béni de Dieu. Nous continuerons toujours à subir ce contraste ou ce paradoxe d'être un pays merveilleux, aux ressources prodigieuses, un scandale en termes de potentialité, mais aussi un scandale en termes de pauvreté de nos populations.
Alors, donc, diversifier les partenaires n'est pas une mauvaise chose, comme vous venez de le dire, mais est-ce que ce n'est pas un danger aussi pour la RDC, comme l'a dit le professeur Emmanuel Mukundi, surtout dans le domaine sécuritaire?
En fait, là où je salue davantage l'analyse d'Emmanuel, c'est qu'il appelle notre leadership à la vigilance. Nous ne pouvons pas nous offrir simplement parce que nous avons des problèmes qui nous imposent aujourd'hui d'accepter des partenaires et y aller tête baissée comme si nous voudrions donner, offrir notre tête à la guillotine. C'est cela la précaution qu'il nous suggère. Nous devons donc, notre leadership doit être suffisamment clairvoyant et perspicace pour éviter que nous tombions dans certains travers. C'est à nous. Parce que très souvent, en faisant le procès de notre pays, nous croyons que l'enfer, ce sont les autres. Non, nous aussi, nous devons nous interpeller pour dire quelle est notre part de responsabilité dans ce qui ne marche pas dans notre propre pays. C'est en nous reprenant de cette manière que nous aurons la capacité de pouvoir éviter les erreurs du passé et puis commettre notre pays dans un avenir d'espérance.
Professeur Emmanuel Mukundi, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Patrice Mudera Kulimu Fizie vous appelle depuis la ville de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Depuis son accession au pouvoir, Félix Tshisekedi, chef de l'État, ne fait signer que des accords ici et là, mais sur terrain, on n'a rien comme concrétisation de ce dernier. Je pense qu'il était plutôt important que le chef de l'État, Félix, se concentre d'abord au projet financier en interne et restaurer le climat des affaires avant de faire appel aux investisseurs étrangers.
Professeur Mukundi, votre réaction.
Merci beaucoup. Avant de réagir à mon frère Mudéroi qui se trouve à Bukavu, j'apprécie à sa juste valeur l'intervention du ministre. Au départ, je vous ai dit, il est mon frère dans notre groupe de Banamama Maria. Il est très honnête et il reste toujours très honnête. En tout cas, aucun Congolais ne peut aujourd'hui créer un optimisme à outrance. Nous avons toujours tous des réserves. Et si vous suivez patient de Bukavu, de Lubumbashi, comme des rois de Bukavu, c'est toujours la prudence. Et moi, j'apprécie l'intervention du professeur Albert qui a insisté sur la gouvernance. Sur la gouvernance, d'autant plus que on appelle les autres. En principe, en économie, ce n'est pas gratuit. Quand vous appelez l'armée des autres, ils viennent chez vous, vous devez payer en contrepartie. Vous pouvez payer soit en espèces, soit en nature. Et la plupart des cas pour nos pays africains, c'est en nature. Regardez ce qui s'est passé entre la France et le Mali. Donc, on finit, il n'y a pas eu de solution. Les Français sont rentrés plusieurs années après, il n'y a pas eu de solution. Je ne doute en aucun cas la force de Turcs, mais cependant, je me dis, d'abord, il faut une organisation interne. Il y a aussi certains éléments qui créent, moi, il y a des éléments palpables qui créent en moi le doute. Je prends par exemple les écoles construites en bois à Kinshasa. J'ai été visiter l'école de Kankokol. Madame, une fois l'école construite, ce sont des écoles qui viennent de ce qu'on appelle les prêt-à-porter qui viennent de la Turquie. Une fois l'école construite, 6 mois après, bon, on dirait que c'est quelque chose qui a été construit il y a plusieurs années. Pourtant, à Kalemi, chez moi, les Japonais ont construit de la même manière. Ces bâtiments-là pour le camp marin, ça existe encore. En comparant ce qui est construit à Kalemi et ce qui est construit à chose, 30 ans plus tard à Kinshasa dans le camp Kokolo, il n'y a pas comparaison. C'est comme si tous ont été construits le même jour. Donc, ce sont des éléments qui font aussi peur. Le président turc a évoqué le soutien de l'agence turque des coopérations et des coordinations pour le développement de la République démocratique du Congo dans plusieurs projets. Jusque-là, je ne sais pas s'il y a un Congolais qui a déjà vu ce projet-là. Et je ne vois pas ça. Par contre, on voit d'autres partenaires bilatéraux, on voit leurs projets. Par exemple, la coopération technique belge. En tout cas, jusque dans nos villages, nous sentons ça, nous voyons ça. Donc, comme disait le professeur Albert, nous n'avons pas à nous aventurer encore avec les autres. Parce qu'en en appelant les autres, c'est nous-mêmes qui nous créons. Nous devons d'abord commencer par corriger notre gouvernance, travailler pour nous-mêmes. Madame, quand je prends cette école-là comme exemple, qui vous prend à plus de 150 000 $, pourtant nous avons le ciment, pourtant nous avons le sable, pourtant nous avons le planche, pourtant nous formons les ingénieurs dans le à l'IBTP partout ailleurs. Donc on peut créer des écoles, on peut construire des écoles dans toutes les villes avec nos potentialités.
Merci.
Donc ce que moi je demande ici, c'est de voir à l'interne. Nous avons beaucoup de potentialités et nous pouvons nous résoudre nous-mêmes les problèmes. Une minute, je rentre à l'aspect militaire. À nous, par exemple, il ne reste qu'à ajouter l'effectif parce que ceux qui créent terrain, ils ne sont pas plus de 100. Ils n'ont pas plus de 30 armes. Donc, c'est question d'organiser seulement l'attaque. On peut résoudre les problèmes. D'autant plus que nous, c'est l'entrée du Tanganyika. Ça vient du site Kivu et ça passe par nous pour entrer dans le Tanganyika. Et si on laisse cette porte, le Tanganyika va être embrassé demain et on va chercher encore les Turcs, on va chercher les Américains, alors que nos militaires sont prêts à pouvoir se battre pourvu qu'on ajoute la logistique et l'effectif.
Professeur Albert Maloukis, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Nous venons à Bompongo à partir de la province de Kinshasa. Notez que le président Kif, avant le président Erdogan, était au Congo en 2010. La RDC et la Turquie ont toujours eu de bonnes relations diplomatiques. Ce n'est pas un retour car ils ont aussi plusieurs intérêts au Congo avec leurs efforts turques, airlines et autres entreprises. En parallèle, il s'est de comprendre que la coopération avec la Turquie ne sera pas bénéfique pour la RDC du moment où le président congolais est sous l'influence américaine, alors que les taux se resserrent entre la Turquie et les USA et d'autres partenaires européens.
Vous allez nous excuser pour la qualité de la ligne de cet auditeur qui nous a appelé depuis Kinshasa, professeur Maloukisa. Est-ce que vous avez suivi l'idée, l'analyse de cet auditeur?
Je crois l'avoir suivi en partie. Je salue également les analyses du ministre Chérubin et de mon collègue Emmanuel. En tout cas, je suis très heureux que nous puissions avoir cette convergence de vues au cours de ces débats. Ce que l'auditeur dit, on en a déjà débattu dans cette émission. La Turquie, oui, elle arrive. Nous sommes heureux de découvrir qu'il y a un partenariat qui s'annonce, mais Nous ne sommes pas si optimistes au regard des résultats qu'on a obtenus par le passé. La Turquie, le prof Emmanuel l'a dit, quand vous regardez la balance commerciale, les échanges commerciaux entre la Turquie et le Congo, pour le moment, c'était en défaveur de la RDC. On peut faire en sorte que les choses évoluent autrement. Nous sommes en coopération avec les Américains, les États-Unis. Ça n'était pas le cas à l'époque de Joseph Kabila. Les relations étaient détériorées. Mais après, on s'est demandé, juste à présent aussi, même avec les États-Unis, il y a eu beaucoup de promesses, mais très peu se sont concrétisées. Même le plan militaire. Les États-Unis sont en train d'organiser des opérations du côté de l'Afrique de l'Ouest pour lutter contre le terrorisme. Mais ce qui se passe au Congo, c'est aussi le terrorisme, non. Mais nous ne bénéficions pas de la même attention de la part de tous ces pays-là. Les États-Unis pouvaient débarquer des militaires au Congo, la France pouvait le faire, la Belgique pouvait le faire, et pourquoi ne le font pas? Alors que le président a effectué aussi beaucoup de voyages pour rencontrer ses homologues, pour rencontrer des officiels dans des pays que nous considérons comme des grandes puissances. Donc ce qu'on a raté ou ce qu'on rate avec les autres pays, ça peut se répéter aussi avec la Turquie. La Turquie comme puissance militaire, c'est assez discutable. Mais je pense que si on met du sérieux, on peut quand même gagner quelque chose. Mais je dis bien que ce n'est pas évident si les choses continuent à fonctionner de la même manière qu'aujourd'hui. Les pays, il faut les mettre en compétition. Les partenaires, il faut les mettre en compétition. Mais comme je l'ai dit avant, on peut gagner que si on a avant tout les soucis de l'intérêt majeur de la population.
Monsieur le ministre, nous sommes à la fin de l'émission. Vous avez suivi les analyses de vos co-débatteurs et même les réactions des auditeurs qui nous ont appelés. Il y a cette petite inquiétude que vous avez reconnue aussi. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, gouvernement, pour aider les Congolais à pouvoir faire confiance aux accords que vous, gouvernement, signez avec les différents partenaires pour sa matérialisation?
Ben, tout ce que nous allons faire, c'est de veiller qu'en tout état de cause, les intérêts du peuple congolais et de la République soient préservés. Nous sommes bien entendu ouverts pour la coopération. Cela ne veut pas dire que nous devons faiblir en ce qui concerne la clairvoyance, la perspicacité dans des négociations. Je vous ai dit ici que les partenaires viennent également parce qu'ils constatent que la République démocratique du Congo est une véritable terre d'opportunités. Donc ils ne viennent pas simplement par sympathie ou pour nos beaux yeux. Non, ils viennent aussi pour leurs intérêts. Mais je crois que c'est le professeur Emmanuel qui avait aussi souligné qu'entre États, il n'y a pas de relation strictement amicale. Il y a des intérêts qui prévalent toujours. Donc c'est à nous de redoubler de vigilance et de perspicacité pour que les intérêts du Congo ne soient pas galvaudés comme dans le régime passé, comme dans ces 60 ans où nous sommes en train de faire notre propre procès de leadership, de management de l'État congolais. Donc c'est ce que je note, en tout cas, je remercie le professeur Emmanuel Mukundi et le professeur Albel Maloukissa pour la pertinence de leur analyse. Pour moi, en tout cas, très humblement, ça me préoccupe, ça attire mon attention, c'est que c'est comme des garde-fous qui sont posés pour que nous évitions dans la mesure du possible des erreurs du passé. C'est cela aussi tout l'intérêt que nous avons attiré du débat démocratique pour faire valoir un véritable état de droit dans notre pays, et cela pour l'intérêt supérieur de la République, qui est la chose de tous en définitive. Encore une fois, merci beaucoup, et pour d'autres intervenants, les auditeurs de Radio Okapi.
Merci, monsieur le ministre Chérubin Okende. Professeur Emmanuel Mukundi, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour que cette coopération avec la Turquie soit réellement gagnant-gagnant? Ça sera votre conclusion.
Comme préalable pour créer la confiance dans la population, les gouvernements doivent d'abord évaluer les accords passés sur la sécurité et présenter de manière transparente à la population. Cela peut recréer la confiance. Deuxièmement, le gouvernement doit être transparent. Qu'est-ce que la Turquie doit gagner en RDC? Là, c'est très important. Si la Turquie vient comme les autres pour exploiter les sous-sols et y demeurer pour continuer encore à entretenir cette guerre-là, elle n'est pas la bienvenue. La troisième chose, le gouvernement doit organiser notre armée. Madame, je suis député national, vous l'avez dit, élu de Niounzou. Nous avons voté un crédit important pour l'armée, en croyant que cette fois-ci, au moins, les militaires vont être bien payés. Il faut que le gouvernement paye bien les militaires. Nos vaillants combattants sont là. Ils n'ont pas besoin des Turcs, ils n'ont pas besoin des Américains, ils n'ont pas besoin des Ougandais. Qu'on les paye bien. L'exemple dans notre pays a payé. Quand vous avez payé $100 aux militaires, on a vu les Kadogo se déployer jusqu'à atteindre Kinshasa. Donc, on a le devoir de pouvoir bien payer le militaire pour leur donner du courage afin qu'ils se battent pour le drapeau, pour la nation. Et enfin, moi je suis élu du territoire de Niouzou, j'ai dit madame, à Niouzou, là où il y a les rebelles de Apanapala, on demande seulement le renforcement de l'effectif et de la logistique militaire pour mettre fin avec ces bandits qui tuent et qui violent. Merci beaucoup.
Merci, professeur Emmanuel Mukundi. Professeur Albert Maloukissa, votre conclusion, qu'est-ce que vous proposez?
Oui, madame, que écoutez, de mon point de vue, c'est trop tôt de dire qu'il y aura une coopération gagnant-gagnant avec la Turquie. Comme je le disais avant, notre pays a énormément besoin de réformes institutionnelles dans tous les secteurs, de la santé, de l'éducation, dans l'administration publique, dans les entreprises publiques, dans les services de sécurité. Si on réussit à mener à bien toutes ces réformes-là, ça va permettre à l'autorité de l'État de pouvoir mieux s'affirmer. Nous aurons à la tête de nos institutions des bons citoyens, des patriotes qui sont effectivement au service de la nation. Mais si la situation demeure comme telle, avec tous ces dysfonctionnements, avec des détournements de données publiques, avec des personnes arrêtées, libérées, avec une lutte contre la corruption à deux vitesses, on ne tirera pas profit de n'importe quelle coopération avec n'importe quel bailleur ou partenaire.
Merci, professeur. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guimaté, Dona Madimba, sous la supervision de Martin Seboujangwe. Merci à Polydor Basunga qui était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.